Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est un des plus grands dessinateurs de sa génération, mais il se fait de plus en plus rare. Il refuse les interviews, enfin, il les limite au maximum. Il ne se montre pas dans les festivals, y compris dans le grand festival d'Angoulême qui voulait le primer. Il s'agit de Manu Larcenet, mon invité ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles au Réveil culturel. Nous sommes le mardi 26 juin. Le Réveil culturel, c'est une émission préparée avec Anaïs Isbert, réalisée par Vincent Abouchard, ce matin à la technique, Bruno Mourlan. Et on va parler d'exposition parce que Manu Larcenet non seulement expose les planches de ses bandes dessinées, plus de 20 ans de carrière, mais surtout il les vend, il s'en débarrasse d'une certaine manière, d'où le titre de son exposition à la galerie Barbier et Maton dans le 10e arrondissement à Paris, « Adieu au papier ». Manu Larcenet, c'est bien sûr le retour à la terre, c'est le combat ordinaire, c'est Blast, c'est aussi des dessins pour Fluide Glacial et pour d'autres publications. Il nous parle de sa technique de dessin, de son rapport au papier et de ce qui va devenir, puisque Manu Larcenet a décidé d'arrêter de dessiner en utilisant le papier, mais ça ne veut pas dire qu'il a décidé d'arrêter sa carrière. Il a d'autres idées en tête. Il nous en parle dans cet entretien enregistré à la galerie Barbier et Maton, je le rappelle, c'est dans le 10e arrondissement à Paris.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Manu Larcenet.
Bonjour Monsieur Hakem.
Vous allez encore me sortir Monsieur Hakem.
Mais parce que l'âge vous patine, vous êtes devenu maintenant quelqu'un de respectable, de magnifique. Vous avez la beauté intrinsèque de l'homme sur la pente descendante.
Alors, monsieur Manu Larcenet, maintenant que vos œuvres s'exposent et se vendent à des prix exorbitants, parlons un peu de cette exposition qui a lieu jusqu'au 15 septembre à la galerie.
À la galerie Barbier et Maton.
Qui vous suivent depuis longtemps?
Depuis au moins une expo, on a fait une expo, je crois, sur le rapport de Brodeck à l'époque.
Alors là, le thème ou le titre de cette expo, c'est l'adieu au papier. C'est ce qui m'a intrigué. Je pensais que vous alliez nous annoncer l'arrêt de votre belle carrière artistique. Mais non, pas du tout. Vous avez juste décidé de vous débarrasser des planches de vos albums les plus emblématiques, les plus cultes, de les exposer et de les vendre en même temps.
Vu l'avancée des technologies numérique, je me mets maintenant à ne dessiner plus que sur ordinateur. Ça faisait quand même depuis que j'ai 12 ans que tous les jours je dessine avec les mêmes outils, plumes, pinceaux, feutres, stylos, sur des papiers, alors des beaux papiers, des moches papiers, des... Et là, c'est arrivé à point, j'ai découvert le numérique et c'est une nouvelle manière de penser le dessin, de penser la planche, et même dans le geste, c'est quelque chose qui, moi, me rappelle l'école, quand on pouvait lancer son bras sur des très grands formats. Là, on peut très bien faire ça si on veut, il y a des gestes beaucoup plus libres. C'est une renaissance pour moi, j'en avais un peu marre de dessiner, en fait, au bout d'un moment. Et le fait d'avoir trouvé ça, d'avoir trouvé un peu ce système numérique là qui permet... de pas passer de temps à faire des rustines, à mettre du typex sur du noir. Et c'est surtout un truc qui préserve l'accident. Quand vous faites un trait et qu'il est pas exactement comme vous le vouliez, mais qu'il est bien quand même. Eh ben avant, je le gommais, je l'enlevais, puis je refaisais un beau trait. Là, je le garde et je bâtis la case autour parfois pour qu'elle soit plus jolie, plus inattendue. Tout ce qui est inattendu avant, je suis pas un virtuose, donc je peux pas faire que des choses comme ça qui me surprennent. Par contre, des fois, au détour d'une case, il y avait un truc incroyable que j'aimais beaucoup, mais qui était noyé au milieu de la case. Maintenant, quand il y a quelque chose comme ça, un accident qui arrive et qui est pour moi supérieur à ce que je peux faire de manière consciente, je peux le garder et je peux bâtir autour. C'est l'énorme avantage du numérique, outre le fait de pouvoir revenir en arrière dès qu'on rate un trait, quoi.
Alors, ce ne sont pas du tout pour des raisons écologiques.
En aucune manière.
Vous auriez pu avancer cette raison, Manu Larcenet.
Vous savez, je veux pas ruiner les espoirs des gens, mais la planète est foutue, hein, que ce soit maintenant ou dans 200, 600 ans. Je pense pas que ce soit ma propre consommation de papier qui ait creusé le truc. Mais non, c'est pas pour des questions écologiques, non. Non. C'est comme un chanteur ou un musicien qui a toujours la même guitare. Faut être un génie pour avoir une seule guitare toute sa vie et faire des choses différentes. Et je suis pas ça. Moi, j'ai besoin de changer de matos et de manière de voir les choses.
Restons sur cette comparaison, Manu Larcenet. Est-ce que vous auriez aimé que votre guitariste favori, qui est par exemple, je sais pas.
Ah, je suis pas comme ça. J'ai des groupes, John Fucciante.
vous accepteriez que John Fusciante arrête de jouer, de gratter pour passer à la musique par ordinateur ?
John Fusciante, c'est l'ex-guitariste des Red Hot Chili Peppers. Donc, excellent guitariste, incroyable, qui a commencé à 18 ans, qui a tout connu, du plus dur au plus... Et il s'est barré, il a arrêté la musique, alors que c'est quand même une sorte de virtuose, pour faire quoi ? Produire du rap. Imaginez, monsieur Hakem, imaginez la traîtrise de ce félon. Quand on est le dernier au monde à pouvoir faire des solos de guitare sans avoir l'air d'un vieux ou d'un con, on n'arrête pas, on poursuit. Eh bien, John Fusciante nous a trahis, il produit maintenant du rap et c'est bien dommage pour tous.
Alors, pour refermer cette parenthèse, vous n'avez pas peur que vos fans vous disent la même chose, vous nous trahissez.
Alors vraiment, pour le coup, je me préoccupe pas, moi, de ce que les gens vont penser avant. Ça me préoccupe énormément quand le livre sort, mais pendant le processus de création, je pense absolument jamais au lecteur, jamais. Parce que si je pensais au lecteur, je ferais pour lui. Or, le but, c'est pas de faire pour, c'est de faire et qu'après, il aime. Il y a un type, l'autre fois, qui me disait ça, un de vos confrères, monsieur Hakem, et qui me disait, n'est-ce pas là une trahison ? Disait-il en me tendant son iPhone pour enregistrer la conversation. Et je lui dis, mais est-ce que c'est pas une trahison à ce moment-là d'avoir un iPhone plutôt qu'un appareil à cadran quoi, avec un fil, quoi ? Je veux dire, personne regrette les cadrans avec les fils. Pourquoi nous, artistes, on devrait rester avec nos fusains et nos papiers qui coûtent un bras par feuille ?
Mais peut-être que parce que, puisque cette interview est enregistrée dans les lieux mêmes de l'exposition, peut-être que parce qu'on se dit, tiens, si ça se trouve, c'est la dernière exposition de Manu Larsonnet, ça nous fait mal au cœur. Oui, on est sensible.
Faut pas avoir mal au cœur pour ça, déjà. Et puis ensuite, je compte pas... Internet permet de faire des expositions virtuelles. Internet permet de faire plein de choses. Donc, c'est pas parce que le support est plus le papier et que c'est devenu digital et que c'est devenu abstrait comme support qu'on peut pas en faire des choses, ni des expos, ni même des... j'avais envie de faire un petit site où on pourrait critiquer ou parler de chaque case. Il y a plein de petites choses à faire comme ça sur la bande dessinée qui sont pas faites parce que ça intéresse pas grand monde, mais... Peut-être si un dessinateur s'y met, ça intéressera peut-être plus les gens, quoi.
Alors, je vais ressortir ma dernière cartouche, c'est-à-dire l'équation économique. Mais là, par exemple, acheter une planche du combat ordinaire, c'est autour de 5000 euros. Si vous passez sur au numérique, qu'est-ce que vous allez faire, Manu Larsonnet ?
Heureusement que j'ai pas attendu de vendre des originaux pour vivre, parce que ça fait à peu près 2 ans que je fais des expos. Sinon, avant, j'en ai jamais fait. Mais je suis pas... anal avec mes originaux, c'est-à-dire j'y tiens pas absolument. Je trouve que c'est bien, je les ai vus, je les ai faits, je les ai gardés parce que, vous savez, j'étais parti sur une idée que sans doute j'allais arrêter assez vite de faire de la bande dessinée et que peut-être la seule chose que je pourrais garder pour mes enfants au niveau pognon, ce serait peut-être des originaux. Donc j'avais gardé tout pour ça parce qu'en général je les donnais, puis avant même je les jetais. Et là, je les ai gardés, puis je me suis dit, j'en ai des tonnes, ça sert plus à rien maintenant, puis je vais pas les regarder, vous voyez. Alors des fois, je donne une planche à quelqu'un qui en veut une, machin, un collègue ou quelqu'un que j'aime bien, mais voilà, c'est bien, tout le monde va pouvoir les voir, voir les plus riches les acheter, et puis c'est bien pour mon compte en banque, c'est bien aussi que je les ai plus sous la main, c'est bien qu'elles partent, c'est bien qu'elles aient une autre vie, sous des yeux peut-être plus attentifs que les miens, quoi. Parce que moi, je les regarde plus, ces trucs-là. Où je vois que les défauts, c'est ça le problème aussi, le vrai problème il est là, c'est que ça s'étale sur 20, presque 30 ans ce qu'on voit là, 20 ans peut-être on va dire, et que je ne vois plus que les erreurs, que je vois plus maintenant que ce que je referais pas, tu vois, dans ce que je vois, je ne vois que ce qui est raté, même si ça me rappelle de bons souvenirs, de voir des vieilles planches, de voir des images sur lesquelles j'ai eu du mal, ou au contraire ça a été facile, ça me ramène dans le temps, mais les originaux en eux-mêmes m'importent peu, il faut faire mieux maintenant quoi.
Qu'est-ce qui est exposé ?
Ça, c'est le choix de Monsieur Barbier et de Monsieur Maton. Il y a essentiellement du combat ordinaire, des séries qui ont eu plutôt du succès, on va dire.
Retour à la Terre,
combat ordinaire. Comme on avait déjà fait Brodeck et que j'avais déjà fait Blast, il y en a très peu. Il y a un peu de la reprise de Valérian. Il y a un peu de tout, en fait, de ce que j'ai fait depuis les années 2000, on va dire.
Tout ça en noir et blanc avec deux taches de couleurs, là, à l'entrée de la deuxième pièce. Faites attention parce que c'est une galerie avec deux pièces. Deux espaces, c'est dans la même rue Choron.
Voilà, il y a deux galeries et je vous prie de visiter les deux, s'il vous plaît. Mais c'est marrant parce que quand c'est bien placé dans des beaux cadres et avec un bel éclairage, j'ai l'impression que c'est pas moi, en fait. Que c'est un vrai auteur de BD qui a fait ça. Elles sont remontées, elles sont mises à plat, alors que chez moi, elles étaient vraiment chiffonnées. Elles étaient en très mauvais état. Ils ont fait un boulot de mutant. Ils ont été obligés de les déchiffonner, de les repasser, de les... parce que vraiment, j'en prends pas soin. Et c'est un peu un voyage dans le temps, en fait. Je suis un peu bizarre depuis que je l'ai visité vite fait, là, il y a 20 minutes. Et je suis entre deux, là. Pour l'instant, je sais pas où j'en suis par rapport à cette expo.
Est-ce que vous voyez un progrès, peut-être pas, une évolution dans votre trait, dans votre travail, Manu Larsonnet, dans cette exposition?
Ah oui. Ah bah là, oui, je vois que l'évolution. C'est-à-dire, je ne remarque que ça, en fait. Je remarque tout ce que je ne fais plus, surtout. Tout ce qu'il ne fallait pas faire et que je faisais à l'époque par manque de soit parfois de courage, soit manque surtout d'expérience. Aujourd'hui, j'ai appris tout ça. Tout ça, c'est tous les originaux qui sont là. À chaque fois, j'ai appris. Que ce soit en perspective, en comment balancer les masses de noir, quels traits utiliser, combien de strips mettre dans une case, quel découpage à faire. Tout ça, je l'ai appris sur le papier, sur ces originaux-là, en faisant ces choses-là, en me trompant très souvent. Mais à chaque fois, c'est ça, c'est une des rares choses dans la vie où j'apprends. Dans la vie, j'apprends pas beaucoup, je retiens pas les choses. Par contre, en dessin, c'est un truc que j'oublie pas. Si je rate un truc, jamais plus je le refais, jamais plus. Donc là, je suis content de voir que je refais plus les mêmes erreurs qu'à l'époque. Et je suis content de voir que je m'étais laissé aller à faire des trucs qui aujourd'hui me paraissent si pourris. Enfin, si éloignés de ce que je pense être quelque chose de bien, bien dessiné, voilà. Tu vois, un petit peu, un côté un peu adulte, on va dire. Là, je vois que j'étais jeune, quoi. Et que j'avais pas honte, hein. Je laisse passer des fois des trucs. Aujourd'hui, je remettrais 20 fois le dessin pour le refaire, quoi. Et là, je le laissais passer parce que, bon, j'étais jeune. Je sais pas, c'est une autre mentalité. Je me vois différemment dans ces trucs-là. J'avais pas d'enfant, je vivais seul. C'était un autre monde, hein, une grande partie de ce qui est exposé ici. C'est pour moi un autre siècle, presque.
Mais enfin, Manu Larsonnet, quand vous parlez d'évolution, c'est une évolution vers où? Je n'ai pas cessé de poser cette question à des dessinateurs comme vous, et ils reviennent avec une réponse qui me laisse un peu perplexe, c'est on veut aller vers l'épure, c'est-à-dire enlever plein de choses. Ça veut dire quoi, au juste?
Alors ça, longtemps, j'y ai cru. Avec Ferry, mon ami Jean-Yves Ferry, qui est donc dessinateur et aussi scénariste, on avait établi la théorie des quatre traits. C'était en regardant Sampé. Sampé est capable, avec quatre traits, de faire un personnage que lui seul est capable de faire et qui en plus est capable de lui donner une expression, presque un vécu, presque en voyant les quatre traits de Sampé, on peut s'imaginer tout ce qui va autour. Donc j'étais très très branché là-dessus et donc on essayait avec Ferry d'aller vers l'épure. Et autant lui y arrive, autant moi je me rends compte que j'y arriverai jamais. Je suis pas assez observateur, j'ai pas l'œil qu'il faut pour aller vers l'épure.
Non, mais déjà, pourquoi cette obsession? Moi, j'aime bien une planche où il y a plein de détails, plein de décors, où on peut se perdre. Mais pourquoi ça devient une obsession, mais très particulièrement chez les dessinateurs de votre génération?
Parce que rapidement, ça devient un système, en fait. D'en mettre plein, de mettre des tonnes, d'en faire des caisses, de faire le plus joli, le plus grand, le plus ceci, le plus cela. Non, les plus intéressants, c'est pas ceux qui font les vaisseaux spatiaux les plus beaux, c'est Sampé. Donc on veut tous aller vers ça. Enfin, tous, pas tous peut-être d'ailleurs, je dis les gens que moi j'ai connus, on voulait tous aller vers une simplification pour pouvoir en dire plus, justement. Sampé, il en dit plus avec moins de traits, alors que nous, en bande dessinée, on est toujours tenté de faire notre cinéma, de faire des prises de vue incroyables, des noirs, des ceci, blablabla. Et Sampé, lui, il se met à sa table, il fait pas un crayonné, il prend juste une plume et de l'encre et il crée un monde. Et voilà, ça c'est un objectif pour un dessinateur. Si ça c'est pas l'objectif, au moins un moment de pour se défaire des scories de je me la pète. Il y a une légende qui court comme quoi Moebius faisait toujours une planche ou deux par livre pour rendre jaloux les collègues tellement c'était impressionnant et tout. Et c'est vrai qu'avec l'âge, c'est plus un truc qui me tente. C'est plus ces cases-là chez Giraud ou Moebius qui m'intéressent. C'est justement celle où il y a beaucoup moins de moyens, mais c'est beaucoup plus direct. On n'est plus dans les pattes, on n'est plus dans « je vais vous montrer ce que je sais faire », on est dans « je raconte un truc et je ne pense qu'à raconter le plus simplement possible ».
Et là, on la voit où l'évolution? Est-ce que ça a été ordonné, ces planches qui sont exposées, Manu Larsonnet?
Pas dans ce sens-là, on voit différentes époques. D'ailleurs, même ne serait-ce que par les outils que j'utilise et les formats que j'utilise, on peut identifier les différentes époques.
Puisque ce sont plutôt les outils qui sont des marqueurs pour vous, Manu Larsonnet, qu'est-ce que vous avez changé au niveau des outils au fil des temps?
Alors j'avais commencé par dessiner avec ce qu'on appelle les outils nobles, donc plumes et pinceaux. Et puis au bout de 20 ans de plumes, pinceaux et encre de Chine, j'ai commencé à avoir une toute petite maîtrise du pinceau. Pas de la plume, mais du pinceau. Et alors j'étais tout content évidemment, donc je commence quelques livres et tout ça. Et Au bout d'un moment, je me rends compte que ça devient un tic, que j'ai chopé en fait quelque chose pour faire un beau trait de pinceau, mais que du coup, il perd de sa vie, il perd de son essence. C'est un trait à la manga. C'est-à-dire, alors, il aurait très bien pu être fait par un studio de 30 personnes. En fait, ce que j'essaie de faire dans mes trucs, c'est d'insuffler un peu plus de vie que dans d'autres livres que je lis. Moi, ce qui me plaît, c'est l'accident. Et j'en reviens toujours à ça. L'accident, dans le dessin, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est de ça qu'on tire un style, c'est de ça qu'on tire une ambiance, c'est de ça qu'on tire... C'est des choses inattendues, rien n'est volontaire. Une fois que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais fort en pinceau, du coup, j'ai balancé tous mes pinceaux et j'ai pris des bics. Et alors, dessiner au bic, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur... Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je me disais, il faut changer, il faut faire autre chose, Mais je restais toujours dans un crayon. Alors que ce soit un bic, au bout d'un moment, 2 ans après, je maîtrise le bic. Après, j'ai essayé le feutre pinceau, 3 ans après, je le maîtrise. Au bout d'un moment, on maîtrise tous les appareils. Il n'y en a pas tant que ça pour dessiner, hein. Alors, évidemment, je pourrais aller vers la peinture et tout, mais moi, j'aime le noir et blanc. J'aime
Vous l'avez fait, d'ailleurs.
Mais j'aime le noir et blanc, j'aime le trait noir sur la feuille blanche, donc j'ai pas non plus, à part le fusain, tout ça, qui sont pas des outils qui me plaisent. Il a fallu retrouver l'envie, quoi. Il faut vraiment avoir envie d'aller sur la page. Et ces derniers temps, j'avais plus envie, j'en avais marre. Ça me saoulait, la plume réagit toujours pareil, le pinceau toujours pareil, les feutres que j'avais achetés par 150 boîtes parce que je les adorais, je les aime plus, je les connais par cœur, je sais ce qu'ils font, je sais comment ils réagissent. Et j'ai plus de surprise, il n'y a plus rien, c'est d'une tristesse sans nom. C'est pour ça que je suis passé à autre chose maintenant avec le numérique. Parce que là, c'est plein de surprises, j'y connais rien, là.
Ça scintille sur France Culture, mais c'est un choix de Manu Larcenet. Manu Solo, on se retrouve tout de suite après.
Ça brille, ça scintille au creux de mon corps. Ça se vrille, s'illumine, mais rien ne se voit au dehors. C'est une maison où je me sens bien. C'est une maison où personne ne vient se leurrer d'amour ou de bons sentiments. C'est une maison où personne ne te ment. Quoi qu'il se passe, que le monde entier se glace, rien ne peut détruire une vraie vie de souvenirs.
Avec Manu Larcenet, donc ce matin, pourquoi ce choix musical? Ceci dit, on a échappé au hard rock, au punk.
Au début, pour être tout à fait honnête, je voulais qu'on écoute Born Frustrated de l'album de Rancid qui s'appelle Indestructible.
Monsieur le producteur a dit non parce que c'était trop bruyant de bon matin.
C'est vrai que j'avais pas fait dans la dentelle, surtout que celle-là est très très violente. Et puis souvent, moi j'écoute beaucoup de punk américain, donc c'est vrai que quand on me demande un morceau, souvent j'ai tendance à aller vers mes racines. Mais j'avais oublié deux personnes, Manu Solo et Majid Scherfi. Deux types qui écrivent, ou qui écrivaient dans le cas de Manu, magnifiquement. Pas toujours dans le bon français, pas toujours avec les bons accords, pas toujours avec les bonnes liaisons, mais des mots qui... J'ai l'impression de comprendre ce qu'ils veulent dire, tu vois. Au contraire de quand j'écoute, par exemple, Monsieur Zemmour, je comprends ce qu'il dit, mais je l'intègre pas, ça rentre pas en moi, ça fait pas écho. Il parle à autre chose. Manu, lui, parlait d'une douleur qui m'est pas éloignée, puisque ayant été malade mental, étant encore aujourd'hui bipolaire, la douleur intense, la tristesse intense, la dépression, toutes ces choses-là sont des choses que je connais par cœur. Et il y a personne comme Manu pour mettre des mots là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la dépression. C'est toujours stupide. Par contre, Manu, alors lui, quand il y a une chanson où juste il nous dit qu'il regarde les lumières de l'autoroute ou dans les tours, les petits carrés de lumière, comme il dit, qui s'allument. Et ça, je peux comprendre. Ouais.
Mais pour la musique dite anglo-saxonne, vous comprenez les paroles aussi, Manu Larcenet? Vous avez un autre rapport à la musique quand vous ne comprenez pas les paroles? C'est juste le son, la vibration?
Alors, il y a les deux. Je comprends les paroles parce que quand même, je me force déjà à les lire. Et quand je comprends pas, à les déchiffrer ou à savoir de quoi ça parle. Parce que c'est toujours important. Mais c'est vrai que quand j'écoute de la musique punk, c'est pas tant pour les paroles que pour l'énergie et la force que ça a. C'est une musique, comme dit le chanteur de NoFX, il dit, c'est de la très bonne musique jouée par des très mauvais musiciens. Et j'aime bien cette idée que n'importe qui peut faire du punk rock. C'est n'importe qui. Et c'est là où on voit tout l'étendue du spectre de la créativité. Je trouve que c'est dans le punk rock, puisque n'importe qui, avec une petite guitare, une boîte à rythme ou une batterie, même pas de basse pour certains, regardez les Bérus, on peut faire du punk rock de qualité en plus.
La musique est là, elle est présente quand vous travaillez, quand vous dessinez, Manu Larsonnet ?
Plus maintenant, malheureusement, parce que j'ai, en vieillissant, je me suis aperçu que j'avais du mal à me concentrer quand j'étais pas dans le silence, quoi. Donc, à grand regret, j'ai arrêté la musique quand je suis vraiment soit en phase d'écriture, soit en phase de dessin compliqué. Après, quand c'est plus facile, ouais, là, je mets de la musique. Mais c'est vrai que en vieillissant, j'écoute la musique. Je l'écoute. Donc, je m'assois dans un coin, puis j'écoute l'album. Là, c'est vrai que la voix en bruit de fond, ça me donne toujours l'impression d'être dans un grand magasin. Et j'ai du respect pour la musique que j'écoute et j'ai pas envie de l'écouter à demi.
Manu Larsonnet qui expose donc ses planches, c'est jusqu'au 15 septembre à la galerie Barbier et Maton, dans le 9e arrondissement à Paris, je peux même vous donner l'adresse, 10 rue Choron, et l'expo a pour titre l'adieu au papier, puisque, comme vient de l'annoncer Manu Larsonnet, il a envie de passer à un autre support, le support numérique. Avant de parler de ce support, puisqu'on a parlé de paroles dans les chansons et de musique, qu'est-ce qui vous excite le plus quand vous faites une bande dessinée, une histoire? C'est plutôt l'histoire, les paroles, les dialogues ou le dessin? Comment ça vient? Ça vient ensemble? Il y a une période d'écriture plus littéraire et puis après l'autre versant, c'est-à-dire la représentation graphique, la mise en scène de la bande dessinée?
Alors longtemps ça a été ça. Longtemps j'écrivais avant dans la souffrance parce que pour moi c'est pas naturel d'écrire. Pour moi c'est pas quelque chose de simple et je lis pas beaucoup. Je suis malheureusement pas un grand lecteur. Donc j'ai beaucoup de mal à écrire, donc j'écris, et quand c'était prêt, je dessinais, et là, je passais, si vous voulez, de quelque chose d'absolument intellectuel à quelque chose d'absolument chamanique. Le dessin, j'ai jamais réussi à intellectualiser ça, à faire ça selon une méthode, voilà, ça vient toujours d'une manière étrange, une sorte d'envie, un truc qui arrive à un moment, on le fait, et puis hop, soudain ça marche. C'est ça le dessin, pour moi c'est ça le dessin. À partir du moment où on commence à maîtriser un peu, avant c'est différent. Avant il faut apprendre, il faut toujours apprendre la perspective, les rapports de couleurs, les rapports de masse, tout, il faut tout apprendre.
Vous avez appris où d'ailleurs
Moi j'ai commencé très tôt, puisque j'ai même été préparé dès la 6e par un professeur extraordinaire qui nous prenait, quelques élèves et moi qui avions quelques, on va dire, facilités en dessin, il nous prenait après les cours pour nous préparer aux grandes écoles, au concours des grandes écoles. Donc c'était gratuit et il le faisait sur son temps libre et il nous faisait traiter tous les sujets qu'on traite pas en cours de dessin en sixième, c'est-à-dire la perspective, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, l'histoire de l'art, tout ça. Et il nous emmenait certains d'entre nous jusqu'aux grandes écoles comme ça. Donc j'ai commencé moi au lycée de Sèvres, qui est un lycée polyvalent. Donc on était plongé toute la journée dans toutes les disciplines, ça allait de la céramique à la tapisserie, au dessin technique, au dessin de nu, à la couleur. J'ai appris tout comme ça, puis après je suis passé aux arts appliqués rue Olivier de Serres, aux rebelotes, on a la photo, on a tout appris, j'ai touché à tout, et c'était passionnant, j'ai adoré l'école, j'y allais le dimanche, on faisait des projets avec d'autres amis, on essayait d'avancer ça le plus possible pendant les vacances, parce qu'on avait accès au banc repro, c'était extraordinaire, c'était un moment... passionnant d'apprendre le dessin. Et là, j'ai appris. Là, en faisant les cours de l'art, on comprend comment on est arrivé aujourd'hui à faire telle et telle chose. Et c'est passionnant parce que chaque étape a sa spécificité. Quand on les connaît pas, on peut pas prétendre connaître le dessin. Quand on connaît un petit peu l'histoire de l'art, on voit par où passe l'intelligence humaine et surtout l'intelligence du dessin.
Alors, si vous voulez faire l'adieu au Manu Larsonnet papier, c'est à la galerie. C'est comme si c'était déjà au musée. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur de Manu Larsonnet? Qu'est-ce que vous nous préparez pour terminer cet entretien?
Je vais faire une série un peu moderne avec mélange de photos, de dessins, de choses que j'ai jamais faites. Enfin, vraiment un nouveau truc avec des textes là pour le coup très travaillés.
Avec des logiciels donc.
Tout passe par le logiciel, mais je suis sur une tablette graphique, tout simplement, avec un stylo. Hein. Donc c'est vraiment, je prends un crayon, je dessine, et puis c'est exact. En fait, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas le risque de jeter la page si on rate un dessin. Quoi. Non, mais c'est vrai, c'est une connerie, mais c'est vrai, avant, je jetais ma page. Ou alors, je découpais habilement et je scotchais. Maintenant, j'ai envie d'aller à l'essentiel, j'en ai marre de passer mon temps à tailler les crayons, à trouver la bonne encre, à la diluer, la bonne température pour qu'elle fiche pas. C'est insupportable. Quand vous avez le trait au bout des doigts, vous êtes en train de le rater parce que votre pinceau est trop mouillé. les gens probablement comprendront pas, mais quand votre vie est basée sur le dessin et que vous faites ce geste-là 500 fois par jour, quand on vous en débarrasse, c'est une liberté sans nom.
Vous voulez continuer à être artiste, mais sans être artisan.
Pour avoir connu, pour avoir dans ma famille des vrais artisans potiers, le dessin ne peut s'accommoder de l'artisanat. Enfin, un bon dessin ne peut s'accommoder de l'artisanat. Parce que l'artisanat, c'est quoi ? Einstein l'avait dit pareil pour la folie. C'est faire 100 fois le même geste en exigeant 100 fois le même résultat. Ça, c'est l'artisanat. Pour moi, l'art, c'est faire 100 fois le même geste en espérant 100 fois un résultat différent. Et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est la définition de la folie selon Einstein. Mais c'est vrai que l'artisan se doit de faire rigoureusement pareil à chaque fois. L'artiste se doit justement de ne pas faire rigoureusement pareil. Et de laisser venir ce qui sort de lui ou ce qui vient de l'extérieur et de le prendre. Et de le plaquer tout de suite sur le papier. C'est l'inverse, en fait, de l'artisan qui, lui... je suis pas en train de mépriser ça, attention. Hein. Je dis juste que artisan et artiste, c'est vraiment deux choses opposées, en fait.
Merci, Manu Larcenet. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous.
Merci à vous d'être venu, monsieur Hakem.